NoWatch.fm.
Incredible web shows.
Cette émission vous est proposée avec la participation de Comic-Con Paris 2012 et du fanshop NoWatch. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en juin 2012 et c'est l'épisode numéro 88. Et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets, c'est-à-dire qu'on décortique l'actualité des deux dernières semaines dans la sphère technologique et on l'explique de manière à ce qu'un raton laveur aveugle puisse la comprendre. Non, elle est pas super réussie celle-là en fait.
Non, okay. On a fait exprès de te laisser un petit silence là.
Oui, c'était bienvenu.
Allez, non, on l'a refait.
Bon, non, en fait, je voulais simplement dire que n'importe qui peut la comprendre, l'actu tech. Donc voilà,
d'accord,
tout le monde.
Pourquoi un raton laveur ?
Je sais pas, c'est ce qui m'est venu. Non, c'est tout à fait aléatoire. C'est comme ça que fonctionne mon esprit. C'est du random access memory et je ne sais pas pourquoi dans ma mémoire à ce moment-là, il y avait un raton laveur.
Ça fait une syntaxe erreur.
Exactement. Voilà. Bonjour à tous.
Il y a des implications freudiennes que j'ose même pas commenter, même pas.
On va même pas essayer, effectivement. Donc, je m'appelle Patrick Béja. Je suis votre animateur pour cette émission qui est parfois correcte, je pense. Mais surtout quand on a des invités de la qualité de ceux d'aujourd'hui, à savoir Jeff, en direct de la Silicon Valley, où il officie en tant que venture capitaliste de renom. Comment vas-tu, Jeff ?
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et non, nous n'avons pas de raton laveur dans la Silicon Valley.
C'est bon à savoir. Jérôme Kainborg, grand Pumba de NoWatch. Est-ce que tu as un raton laveur chez toi ?
Eh ben, écoute, même si j'en avais un, je suis pas sûr que je l'avouerais en direct dans cette émission.
Que tu révélerais cette information.
Voilà, cette information.
Malheureusement, notre camarade Yann, qui était prévu pour l'émission, a eu une petite urgence. Donc, il ne peut pas être avec nous, mais Jérôme le remplace au pied levé. Et je suis sûr qu'il le fera avec brio.
Je suis la Rustine des podcasts.
Je tiens également à remercier la chatroom d'être là présente, nombreuse et animée comme toujours. Et bien sûr, comme toujours, remercier également Ustream, notre partenaire, ou en tout cas les camarades de Ustream qui nous offrent cet outil de diffusion de qualité professionnelle, donc de bonne qualité, qu'on peut avoir sans pub ni rien. Donc c'est extrêmement pratique pour nous chez NoWatch et on l'utilise pour toutes nos émissions live. Donc c'est un énorme merci à Ustream qu'on envoie maintenant. Et on va se lancer dans le programme de l'émission dans lequel on va vous parler de Stuxnet, de Facebook, d'un téléphone Facebook qui existerait presque déjà. Hein, bah je tease un peu, c'est pas tout à fait ça, mais on va vous expliquer. Et principalement de Google contre Oracle, qui est totalement terminé. Ce procès fleuve qu'on vous relate depuis quelques semaines et quelques mois, c'est terminé en faveur de Google. On va vous expliquer un petit peu tout ça dans quelques minutes. On commence donc par Stuxnet, et pour ceux qui ne comprennent pas de quoi je parle, il faut remonter à quelques mois. Et dans l'actu tech, il y avait l'histoire de ce virus extrêmement virulent qui avait envahi les centrifugeuses iraniennes. Si vous le découvrez aujourd'hui, ça va vous paraître un peu bizarre, mais en fait, c'était un virus qui avait été inséré dans les centrifugeuses iraniennes pour, a priori, retarder le programme nucléaire iranien. Et au moment où on l'avait découvert d'une part parce qu'il avait été, il était sorti de sa cible première, il avait été découvert sur d'autres installations. Et d'autre part, beaucoup de gens avaient spéculé sur l'origine de ce virus et on penchait entre une origine américaine et une origine israélienne. Donc c'était effectivement, on pensait qu'il s'agissait d'une arme de cyberguerre, de guerre technologique qui avait été designée, conçue par les Américains et ou les Israéliens pour retarder le programme nucléaire iranien. Il s'est trouvé que cette semaine, suite à une enquête d'un journaliste américain, on a eu la confirmation confirmation du fait qu'il s'agissait effectivement bien d'une arme, que non seulement il s'agissait d'une arme, mais qu'en plus, elle avait été débutée, enfin, initiée, le programme avait été initié par Bush Jr., donc George W. Bush, et qu'il avait été continué. Alors on voit les anti-Bush dont certains d'entre vous feront peut-être partie dans l'audience, enfin dans le public. Eh bien, sachez que c'est pas que Bush qui a initié le truc. Enfin, en tout cas, il l'a initié, mais il a été entièrement repris à son compte par Obama. Donc même le démocrate Obama a jugé le programme utile et bon à continuer. Et il a été continué par Obama jusqu'à ce qu'ils en perdent un petit peu le contrôle, visiblement, peut-être par la faute des Israéliens. En tout cas, c'est ce qu'a laissé entendre Joe Biden, le vice-président américain, en disant que les Israéliens avaient été trop loin, qu'ils avaient modifié le code de Stuxnet, de ce virus, et qu'ils s'étaient donc retrouvés sur d'autres installations que celles pour lesquelles ils avaient été initialement prévues, c'est-à-dire les centrales de la ville de Natanz, où ils avaient dû être introduites par un port USB, par une clé USB en fait. Ils avaient des petits commentaires intéressants dans cet article où ils disaient « Il y a toujours un imbécile pour ne pas se méfier de ce port USB, de cette clé USB, et pour le mettre dans un ordinateur sans vérifier et sans sécurité. » Et donc c'est comme ça qu'ils avaient réussi à l'insérer là-bas. C'est comme ça sans doute qu'il s'est échappé également, puisque les centrales de la ville de Natanz n'avaient pas de connexion à l'extérieur. Donc ils pouvaient pas le transmettre par internet. Deux petites notes tout de même à faire à propos de cette histoire. Premièrement, c'était un virus assez complexe et intéressant qui indiquait aux opérateurs de la centrale que tout allait bien, alors qu'en fait il ralentissait les centrifugeuses, ce qui faisait que le programme nucléaire était compromis. Et d'autre part, l'autre chose, c'est que on sera peut-être prompt à dire que la chose est inacceptable, et je le comprends tout à fait, d'autant plus que l'ironie suprême est que dans le même temps, les États-Unis avaient pondu un document déclarant que toute attaque de cyber, enfin que toute cyberattaque était considérée comme un acte de guerre tout court, et que donc ça pouvait provoquer une réponse armée. Donc c'est effectivement assez ironique. Mais en plus, ce que je tiens moi à dire, c'est que oui, on va le condamner, on va condamner l'hypocrisie des États-Unis et d'Israël peut-être, et se dire, mon Dieu, voilà, ce sont des actes de guerre et c'est totalement inacceptable. Oui, tout ça est vrai, mais je pense qu'il faut pas perdre de vue non plus, peut-être, là je vous pose la question, à vous co-animateurs et à vous auditeurs, est-ce que c'est pas mieux de se dire, bah maintenant les guerres vont se faire de cette manière, vont avoir lieu sur le cyberspace, plutôt que d'envoyer effectivement des militaires, bon, ça, l'un n'exclut peut-être pas l'autre, mais disons que la première étape, c'est peut-être essayer de compromettre les installations de ce type-là avec des opérations informatiques plutôt que d'avoir recours à la force brute immédiatement. Donc, d'une certaine manière, est-ce que c'est pas un moindre mal? Et je vous laisse sur cette courte présentation le micro à celui qui veut le reprendre. D'accord.
Coup, il y a c'est le silence.
Alors Jeff qui vient d'avoir sa nationalité américaine et qui est donc tenu à un patriotisme absolu et qui doit donc absolument approuver tout ce qui s'est passé dans les dernières années initié par le gouvernement américain. C'est bien comme ça que ça marche, non? J'ai bien compris.
Non, parce que c'est pas George Bush. Obama, ça va encore, mais George Bush, non. Bah, en fait, si on voit la façon dont les Israéliens et les Américains veulent essayer de limiter le plus possible l'activité centrale nucléaire et armes, évidemment, nucléaires iraniennes, c'est vrai que c'est mieux d'utiliser des virus informatiques que de balancer des troupes en Iran ou de buter les scientifiques, parce que bon, c'est aussi ça se passe en parallèle, c'est-à-dire qu'ils les dégomment les uns après les autres. Oui. Je pense que ça fait partie aujourd'hui clairement de l'arsenal de guerre des grandes puissances que d'opérer des virus, se protéger eux-mêmes des virus, mais de le lancer. Et clairement, les Israéliens ont toujours été super forts en tout ce qui est brute force, maths, sécurité, etc. Donc c'est pas super étonnant de les trouver là-dedans. Mmh.
Jérôme?
Moi, déjà, il y a une chose que j'ai notée. C'est plutôt rassurant que c'est un journaliste américain qui ait dévoilé le truc, parce que c'est là où on voit quand même. Parce que l'espionnage, on n'a pas attendu l'informatique pour que l'espionnage existe. Je veux dire, c'est aussi vieux que la guerre. Et les moyens préemptifs d'attaque ou faire la guerre sans faire la guerre, c'est le but ultime de la guerre. Ça, c'était les Chinois qui ont inventé les préceptes de la guerre. La plus belle des batailles, c'est celle qu'on ne mène pas. Et donc, il y a toujours des guerres comme ça qui se passent au niveau de l'espionnage. Là, qu'un journaliste américain dévoile l'affaire, qui met finalement dans l'embarras son propre pays, ça veut dire qu'en tout cas, il y a une partie du monde qui est évolue un petit peu. Maintenant,
Les Américains ont effectivement toujours été très très forts pour ce qui est de la démocratie dans ce sens-là et du journalisme d'enquête, même politique, aux implications graves.
Bah oui, du Watergate jusqu'à aujourd'hui. Oui, mais tu vois, on prend l'exemple de la dernière grande guerre qu'on a beaucoup étudiée en histoire, la Deuxième Guerre mondiale. On révélait pas les trucs d'espionnage comme ça, ça se faisait pas. Alors est-ce que c'est bien ou pas bien, ça c'est un autre débat, mais en tout cas voilà. Après, c'est vrai qu'on sent aujourd'hui que les États-Unis, il y a quand même un grand bras de fer sur finalement qui contrôle Internet, et que c'est vrai que c'est les premiers à donner des leçons un petit peu au reste du monde. Mais bon, ils font comme les autres, quoi. Quand ils accusent les Chinois de faire de l'espionnage sur Internet et de des choses comme ça, bah ils font pareil, quoi.
Bah, effectivement, l'un des dangers, c'est que là, pour le coup, ils sont plus du tout crédibles quand ils vont accuser qui que ce soit de tous les maux, parce qu'ils font des opérations de cyberguerre. Bon, effectivement, ça peut provoquer une escalade un petit peu dangereuse, peut-être. Ouais. D'autant plus que l'une des choses qu'il faut.
Le problème de ton utopie, Patrick, c'est que ça ne s'arrêtera pas à Internet. Ce qu'ont dit les Américains est très clair. En gros, ils vont considérer qu'une attaque comme ça, c'est une attaque militaire, et il y aura peut-être une réponse qui sera pas en jouant à Tetris contre un ennemi, quoi.
Oui. Et puis là où effectivement la chose peut devenir dangereuse, c'est que c'est une possibilité qu'il faut évoquer aussi, c'est que ce virus-là, heureusement, n'a pas provoqué de dégâts graves et n'a pas provoqué de perte de vie, mais il n'est pas inimaginable qu'il ait pu échapper au... Alors, d'une part, il a déjà échappé au contrôle de ses créateurs. Ça, c'est, on aurait pu le voir venir gros comme une maison. C'est un petit peu jouer les apprentis sorciers que de créer ce genre de bestiole. Mais encore plus grave, il aurait pu, par exemple, provoquer, imaginons, un problème dans une centrale nucléaire dans un des pays visés, ou même dans un autre, qui aurait pu couper l'électricité dans certains pays, ou et provoquer des dégâts graves, voire des pertes humaines. Donc c'est là aussi qu'il faut comprendre, peut-être, à, comme tu le disais, Jérôme, mon utopie est un petit peu trop utopiste, et ça aussi, c'est un argument qui va à l'encontre de cette utopie, c'est que ça peut avoir des conséquences graves aussi. C'est pas forcément uniquement une histoire de petit virus qu'on envoie et qui se balade dans une centrale et qui ne fait que ce qu'il a été, ce qu'on imaginait qu'il ferait.
Ce qui fait froid au dos quand même, c'est de se dire que bon, là, c'est a priori des pays démocratiques qui utilisent ça, mais ça veut dire aussi que ce type de virus peut tomber dans des mains beaucoup moins bienveillantes, entre guillemets. On pense au terrorisme, voilà, quand les terroristes utilisent finalement des moyens militaires aussi. Oui. Donc ça va arriver aussi, ça.
C'est sûr. J'aime Lipki dans la chatroom qui nous dit « Les USA attaquent aussi pour créer des guerres, ouvrez les yeux ». Je suis heureux que tu nous révèles la sagesse de ta grande réflexion, Lipki. Je pense qu'on n'aurait jamais pensé à ça avant. Je suis désolé, je suis un petit peu... Le problème, en fait, avec ce genre d'histoire, c'est qu'on tombe très souvent dans des extrêmes un petit peu caricaturaux, et il est très très facile, dans ce cas précis, de tomber dans des condamnations unilatérales d'un côté ou de l'autre, et je pense que là, c'est pas vraiment le sujet. Il y a des choses plus intéressantes à dire, et des choses plus... précise dans le domaine de la technologie à évoquer et à discuter. Donc c'est ce qu'on a essayé.
Oui, puis quand même, c'est pour ça que j'ai évoqué le journaliste au début. C'est un journaliste américain qui a dévoilé l'affaire.
Si ça avait été de l'autre côté... Je m'excuse, Lipki, fais la prochaine fois, je ferme ma gueule. Pardon, j'ai fait le troll, c'est vrai.
Si ça avait été de l'autre côté, je sais pas si un journaliste iranien aurait pu révéler l'affaire, voilà, juste pour remettre les choses en perspective de la géopolitique aujourd'hui, quoi.
C'est pas faux.
Faut pas être naïf non plus, hein. C'est au sens où, c'est clair que il y a des démocraties qui sont plus démocratiques que d'autres. Bon, l'Iran, je pense pas que ce soit une super démocratie, étant donné ce qui s'est passé dans la limitation des droits de l'homme, etc., etc., là-bas, et de l'expression. Mais bon, ils utilisent tous les mêmes outils, et c'est clair que quand on voit un peu l'infrastructure du genre, le power grid, donc tout ce qui est infrastructure électrique ici, c'est relativement fragile et ancien. Quelques virus bien foutus, bien géré pourrait vraiment foutre la merde et faire un blackout surtout aux États-Unis. Donc on est clairement à risque. Pareil sur l'eau, donc toutes les infrastructures des grands pays sont à risque de ce genre d'agression.
Et d'ailleurs, en France, avec les grèves, nous on est blindés. Hein. On est préparé à tout.
Tu veux dire que tu risques rien à SNCF, dans les vieux contis. Au pire, les trains ils tournent pas.
Attends, nous on a des vélos maintenant, donc c'est bon, on peut se démerder. Hein.
Les vélos, tu peux mettre tous les virus que tu veux dessus, ils continuent à tourner. Encore que Vélib, le jour où il y a un virus sur les stations.
Alors là, il y aurait des scandales à révéler sur le Vélib. Ouais. Ouais.
Mais effectivement,
avec un gouvernement socialiste, il n'y a pas de grève. J'ai pas compris là.
Ah, le troll politique est là aussi.
Alors là, nous sommes sur un terrain glissant.
Oh, mais oui, il y aurait beaucoup de choses à dire. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse, on le sait, mais effectivement, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Une petite mention du virus Flame, qui est un autre malware virus qui a été découvert il y a peu de temps, qui est selon les chercheurs le virus le plus compliqué de l'histoire, ou d'autres disent qu'il est en fait super simple, donc on sait pas très bien à quoi s'en fier, mais visiblement il a l'air assez complexe parce qu'il a différents modules. Il installe une base de données SQLite qui pour gérer les mots de passe qu'il a récupérés. Il y a différents modules qu'il peut installer ou désinstaller en fonction de ses besoins. Il peut être mis à jour. Enfin, bon, moi je suis pas un grand chercheur en virusologie informatique, mais il semblerait que ça soit un truc incroyablement complexe qui soit passé sous les radars depuis plus de 5 ans et qui soit le prochain grand mystère à éplucher et à comprendre dans le domaine. Et certains disent qu'il est tellement complexe qu'il est sans doute géré par un gouvernement, et que le but là n'est plus d'aller chez dans les centrales nucléaires de certains pays pour les retarder, mais plutôt de récupérer autant d'informations possibles sur le monde entier pour avoir les informations, une sorte d'archivage de toutes les informations qu'on peut récupérer. Donc bon, on pense à la CIA, peut-être au FBI, la chose qui fait le plus froid dans le dos dans cette histoire, c'est que si celui-là on a réussi à le découvrir, il semblerait que ça veuille dire qu'il y en a d'autres bien plus complexes encore qu'on n'a pas encore trouvé et qu'on ne trouverait que dans quelques années. Donc voilà, vous êtes prévenus, changez vos mots de passe. Voilà. Non, bon, bref, faites attention à votre sécurité, c'est important.
1, 2, 3, 4, c'est pas un
bon. Non, allez, au moins jusqu'à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Voilà.
C'est mieux. Information suivante, c'est Facebook et son fameux téléphone qui repointe le bout de son nez, parce que certains journalistes ont évoqué la possibilité que Facebook soit, enfin, ont évoqué encore une fois la possibilité que Facebook soit en train de concevoir son propre téléphone. C'est une rumeur qui est déjà ressortie une ou deux fois dans les mois précédents. Et là, il y a eu une thèse intéressante qui est que, en fait, le téléphone Facebook existe peut-être déjà plus ou moins en morceaux. C'est-à-dire que sur les autres appareils, sur les smartphones, il y a déjà une application Facebook, bien sûr. Il y a une application Messenger qui est séparée, qui s'apparente plus ou moins au SMS. Il y a l'application photo désormais, en plus de l'application Instagram qui a été rachetée par Facebook. Ils ont sorti une application photo dédiée. Beaucoup de gens ont dit « Ah, mais c'est ridicule de racheter Instagram si on sort l'application photo en même temps. » Moi, je pense que ça parle pas du tout aux mêmes personnes, donc cet argument pour moi ne tient pas. Mais bon, peu importe, ils ont une application photo qui fait appareil photo. Ils ont également votre liste d'amis qui s'apparente plus ou moins à des contacts. Ils ont un agenda, enfin un calendrier qui peut effectivement être étendu au niveau de l'organisation d'un calendrier général. Donc, par petits morceaux, ils ont tous les éléments qui constituent le cœur d'un téléphone. Et ce qui leur manque, c'est un navigateur. Et on a justement entendu des rumeurs selon lesquelles Facebook pourrait être en train de racheter Opera. C'est un navigateur qui est très apprécié par certains utilisateurs, qui est un petit peu confidentiel dans le grand public, mais qui est assez innovant, en particulier dans le domaine de la mobilité. Et tout ça mis ensemble, ça constitue une sorte de cohérence assez intéressante, surtout que l'une des choses qu'on entend très régulièrement, c'est le fait que Facebook est très en retard sur la mobilité, parce qu'ils sont beaucoup de gens utilisent Facebook en mobilité, mais ils ne réussissent pas encore à monétiser cette utilisation. Alors, comment est-ce que ça leur permettrait de monétiser la chose mieux d'avoir un téléphone estampillé Facebook ? Ça, je ne saurais pas le dire, mais en tout cas, effectivement, les petits morceaux dont il parle, donc le Messenger, Facebook lui-même, les photos, les contacts, le calendrier et désormais peut-être le navigateur, ça pourrait constituer effectivement un téléphone entièrement Facebook, fait pour Facebook, par Facebook, pour les fans de Facebook. Ça vous semble cohérent ou c'est des fantasmes d'analystes, tout ça ? Jeff, on commence par Jeff.
Clairement, c'est quelque chose sur lequel ils ont bossé depuis un bout de temps, et ça paraît un peu bizarre qu'ils essaient de rentrer dans le domaine du téléphone qui est... Il n'y a pas beaucoup de marge, c'est très compétitif, regardez RIM, etc. Donc clairement, le marché n'a pas du tout apprécié, puisque maintenant ils sont publics, cette annonce. Je sais pas en fait si c'est un positionnement Facebook avec un téléphone à bas prix pour les pays émergents où ils sont en train de se développer énormément, ou si c'est un téléphone Facebook custom pour les États-Unis. Donc je pense qu'on verra un peu ce qu'ils veulent faire.
Oui, ça serait pas vraiment un smartphone, ça serait une sorte de super feature phone spécifiquement pour Facebook, mais pas forcément pour le même public que celui qu'on connaît aujourd'hui.
Ça me semblerait plus logique, parce qu'aujourd'hui, c'est clair que Facebook sur l'iPhone, c'est pas génial, hein, l'application, elle est un peu pourrie. Je pense qu'un des savoir-faire d'Instagram, c'était vraiment de créer un produit extrêmement engageant, super rapide, assez light et tout. Et clairement, l'application Facebook, puisque c'est du HTML5 râpé dans une application, c'est assez lent, donc il y a beaucoup de progrès à faire. J'ai du mal à voir l'intérêt d'un Facebook phone, sauf s'ils essaient de rentrer dans des démos particulières, genre les jeunes et le premier téléphone, parce que pour un téléphone d'entrée, ça aurait du sens d'avoir un Facebook phone, tu vois, surtout s'ils commencent à regarder les gamins de 11 ans à 13 ans comme une nouvelle cible, ou les marchés émergents. US, je vois pas pourquoi on irait acheter un Facebook phone, donc je pense qu'on n'a pas toutes les infos.
C'est peut-être pas cohérent pour les marchés qu'on connaît, mais et justement on va parler des plus jeunes dans quelques minutes, mais avant ça, Jérôme.
Je rejoins un peu vos avis, donc je vais dire un petit peu la même chose, mais à une nuance près.
C'est pas la peine alors.
Je rajoute ma petite nuance près. Effectivement, je pense que le seul intérêt qu'ils auraient, c'est vraiment l'entrée de gamme pour jeunes, pour l'Occident en tout cas, My First Phone, qui serait pas tout à fait un smartphone, et pour les pays émergents, là où ils peuvent peut-être jouer une carte, c'est le téléphone autofinancé par la publicité, comme fait un petit peu Amazon avec son Kindle, ou le téléphone vraiment pas cher pour effectivement marché émergent et très jeune. C'est vrai que ça ferait quand même un carton chez les jeunes qui abandonnent le BlackBerry dont ils étaient fous à cause de la messagerie. Il y a quand même quelque chose à jouer, parce que je suis d'accord avec Jeff, Facebook n'a pas encore pris le virage du mobile, leur appli est catastrophique sur iOS.
Oh, j'irai pas jusque là quand même.
Si, franchement, je la trouve mauvaise, quoi. Par rapport à ce qui sort aujourd'hui. Je la trouve vraiment pas bonne, puis confuse. De toute façon, je trouve Facebook confus. Mais voilà, moi, c'est un avis de CSP+, de la quarantaine qui utilise les réseaux sociaux régulièrement. Mais les jeunes sont quand même... Twitter, chez les jeunes français, ça n'existe pas. Ouais. Quoi.
En parlant des jeunes, alors effectivement, sur la question des marchés émergents, quelqu'un dans la chatroom, il faut que je retrouve... C'est Tinus d'ailleurs, salut Tinus, qui nous dit Facebook sur les marchés émergents, ça existe. L'une des choses à préciser sur les marchés émergents, c'est qu'effectivement, c'est une chose qu'on disait la dernière fois. L'un des problèmes de Facebook, c'est qu'ils ont déjà tous les riches dans leur, chez leurs utilisateurs. Donc les prochains utilisateurs qui vont récupérer, c'est des gens moins riches, donc qui vont leur rapporter moins d'argent. Donc bon, c'est une chose à considérer aussi. Mais en parlant de gens nouveaux à récupérer, il semblerait que Facebook soit en train d'étudier la possibilité de laisser des utilisateurs plus jeunes créer des comptes, parce que certains d'entre vous ne le savent peut-être pas. Facebook est limité à 13 ans et plus. Normalement, tous les utilisateurs de Facebook cliquent leur accord avec les conditions d'utilisation qui disent qu'ils ont 13 ans et plus. Bien sûr, il y en a qui sont moins âgés qu'ils le font, mais normalement, c'est interdit. Et ça soulève une question intéressante qui est, est-ce que vous accepteriez que votre enfant de 12, 11, 10 ans aille sur Facebook? Et peut-être sous quelles conditions? Avec une expérience modifiée? Avec une... Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça vous inspire quoi, genre un gamin de 10 ans qui va sur Facebook?
Ben, étant donné que les deux miens, qui ont respectivement 15 et 11, ont ouvert des comptes Facebook avant qu'ils aient l'âge, en trichant effectivement sur leur date de naissance.
On va les dénoncer à la police de Facebook, là, attention.
Bah, le problème, c'est qu'après, tu peux pas changer ta date de naissance, donc ils disent, ouais. Comment je fais pour pas avoir 40 ans, là? Bon, ouais. Je pense que nous, la façon dont on le gère, c'est parce que on a essayé de leur inculquer les bases de la net étiquette et de ce qu'on fait, de ce qu'on partage, de ce qu'on fait pas, etc., etc. Toute façon, ce qu'il faut être clair, c'est qu'à partir du moment où on leur a donné un compte email, chose qu'ils ont depuis des années, ils ont été capables de s'enregistrer tout seul. Donc ma fille s'est enregistrée toute seule sur Facebook. Bon, elle a invité ma femme à être sa première amie, donc on l'a vu tout de suite. Et on essaie de leur expliquer comment les risques de la présence online, de ce que ça veut dire. Et pour moi, comme à mon sens les gamins vont le faire, je préfère à la limite qu'il y ait une expérience un peu plus orientée contrôle parental, voir ce qu'on fait, etc., plutôt que on continue avec l'approche actuelle qui est que bah ils s'enregistrent tout seuls et puis ils mentent sur leur âge. Donc ouais. Je pense que c'est comme de toute façon tu peux pas empêcher un gamin d'avoir Facebook, parce que même si je veux dire, entre les téléphones portables, enfin les smartphones et puis les ordinateurs, ils peuvent le faire, quoi.
C'est ça le problème, en fait. J'allais dire le danger, mais c'est ça le problème, c'est que de toute façon ils vont y aller, que tu acceptes ou pas. Donc
Moi, je suis même assez partisan. Enfin, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, avec tous les dangers que ça représente, la gestion de son identité numérique devient un enjeu crucial pour l'individu. Et il faudrait presque l'apprendre non seulement au niveau des parents, mais aussi au niveau de l'école. Ouais, et j'aurais tendance à dire le plus tôt est presque le mieux. Pour autant que Facebook mette quand même un certain nombre de sécurités, alors je sais ouais. que j'ai des petits neveux et nièces, hein. Je sais que les sécurités, ils ont vite fait de les contourner, mais le fait même d'apprendre à contourner une sécurité, c'est aussi un apprentissage. Voilà, moi je suis assez partisan, tout en connaissant tous les risques d'addiction et de choses mauvaises. De toute façon, la société va dans ce sens-là et aller contre le courant de l'histoire, c'est juste une stupidité. Un petit peu, ouais. Donc voilà.
Bah, disons que tant qu'à faire, moi personnellement, mon avis, c'est que pour les plus jeunes, peut-être leur autoriser les comptes Facebook avec un certain nombre de restrictions, pouvoir avoir un système de différents âges, il y a des choses qu'on peut faire et qu'on ne peut pas faire, comme par exemple le fait de ne pas pouvoir voir le nom d'un enfant, le nom complet d'un enfant, ou voir là où il habite, ou ces choses-là qui soient contrôlées à la base, ça serait peut-être mieux que de les laisser contourner cette non-autorisation à 13 ans pour qu'ils se retrouvent peut-être dans des situations, on va pas dire dangereuses parce que j'imagine que c'est quand même rare, mais des situations où ils ne seraient pas censés être. Petit mot pour préciser que j'ai fait un petit sondage dans la chatroom. Facebook avant 13 ans, pour ou contre, il y a environ un tiers qui disent pourquoi pas et deux tiers, un petit peu plus de deux tiers, qui disent jamais de la vie. Donc je pense que la réaction est assez nette. Les gens sont généralement plutôt contre l'idée d'autoriser les enfants à aller sur Facebook avant 13 ans. Là encore, ça me paraît être une réaction un petit peu épidermique qui, après réflexion, pourrait être modulée. Mais bon.
Bah, de toute façon, ils le font toute manière dans votre dos. Donc la question c'est plus une... on peut pas empêcher les gamins aujourd'hui d'accéder à Internet, d'accéder à ces services, sauf s'ils utilisent des systèmes d'authentification du genre donnez-moi un numéro de carte de crédit, on va prélever un dollar de manière à vérifier que vous avez bien l'âge, blablabla.
Disons que de toute façon ils sont sur Internet effectivement, comme tu le dis, donc ensuite Facebook ou pas Facebook.
Donc pour moi aujourd'hui c'est important de donner aux gamins ne serait-ce qu'une espèce d'éducation à Internet pour expliquer les risques, tout ce qu'on peut trouver, etc. Et puis rester proche d'eux pour voir ce qu'ils font et les avoir effectivement comme friends et les suivre sur Twitter. Donc je suis le compte de ma fille pour voir ce qu'elle raconte et puis voilà quoi. Parce que c'est difficile aujourd'hui, on peut, sauf si et il n'y a pas possibilité aujourd'hui de dire à Facebook ne donnez pas accès à cette adresse email ou cette adresse email. Ce qu'il faut c'est gérer quoi.
Il vaut mieux effectivement jouer a priori nous ce qu'on est en train de dire c'est qu'il vaut mieux jouer la carte de l'éducation plutôt que celle de l'interdiction pour ce cas précis. Je pense que c'est assez logique, mais si vous avez des arguments pour ou contre, n'hésitez pas à venir les partager avec nous sur le blog de l'émission, enfin sur l'article de l'émission.
Je précise quand même une chose parce que 2-3 dans la chatroom ont dit il faut aller contre le sens de l'histoire. Je précise, c'est le sens plutôt de la technologie. C'est quand une technologie est adoptée comme Internet et dire aujourd'hui on va arrêter ça ou on va interdire ça, on voit bien que de toute façon c'est relativement vain. Parce que c'est assez adopté, c'est comme si on essayait d'interdire le téléphone quand ça a été inventé. Quand c'est adopté, tu peux pas revenir en arrière. Il fallait être vigilant avant si on pensait que c'était vraiment dangereux.
Effectivement, oui, non, là c'est un petit peu trop tard peut-être. Deux petites news rapides sur Facebook toujours. Il y a du rififi du côté de la bourse parce que on vous avait parlé des petits problèmes qu'il y avait eu avec le Nasdaq et d'autres choses encore au moment de l'entrée en bourse de Facebook. Il semblerait qu'il y ait un procès qui se trame. D'ailleurs, il semble pas. Il y a effectivement un procès qui se trame. Et autre chose, Yahoo et Facebook seraient possiblement en train d'enterrer la hache de guerre. Il semblerait que les rachats qu'a fait Facebook à grands coups de millions et de centaines de millions auraient été efficaces, puisque Yahoo s'est un petit peu calmé sur ces histoires de procès et il parlerait en ce moment d'une question de cross-licensing, donc d'autorisation croisée d'utilisation des différents brevets qu'ils détiennent, Facebook et Yahoo. C'est un petit peu inattendu vu comment ça avait commencé, mais bon.
C'est complètement pas inattendu, au contraire. D'accord. C'est-à-dire que comme Scott Thompson qui avait lancé la campagne anti Facebook patente etc. S'est fait virer à coup de pompe dans les fesses parce qu'il avait menti sur son résumé et que Ross Levinson sur son CV et que Ross Levinson l'a remplacé en tant que CEO temporaire, mais a priori il va être confirmé. Il a autre chose à glander, le Gus, que de se taper la problématique de la lawsuit, de la counter lawsuit, etc., et dépenser son énergie et des millions sur ça. Et donc, ça a du sens complètement qu'il essaie de régler le problème, d'avoir un cross-licensing qui est intéressant pour les deux boîtes et qu'il passe à autre chose, quoi.
Ouais, effectivement. C'est bien vrai. Dernier sujet principal dont on va parler aujourd'hui, c'est Google contre Oracle. Vous vous souvenez qu'on avait parlé de cette histoire sans doute même à plusieurs reprises, puisqu'il y avait un problème avec Android qui utilisait certaines fonctionnalités de Java développées par Sun qui a été rachetée par Oracle. Alors si vous êtes toujours là, c'est que vous avez suivi l'affaire. Eh bien, il se trouve que le jury a fini de délibérer dans ce procès et ils ont... Alors, j'explique un petit peu. Le juge avait dit, imaginons que les API, les librairies d'accès de fonctions qui ont été utilisées dans ce cas-là, puissent être copyrightées. Parce que ça, c'est un débat qui n'avait pas été clos. Si ces API étaient copyrightables, donc du côté de Oracle, s'ils avaient le droit au copyright de ces API, est-ce que Google aurait été coupable de contrevenir à ce copyright ? Et là, le jury a dit mais on a complètement du côté de Google. Ils n'avaient pas enfreint le copyright de Oracle, même si ce copyright était valide. Donc, premier coup à Oracle, le jury était complètement du côté de Google. Il disait non, mais c'est n'importe quoi. Il y a quelques lignes dans ce code sur des milliers et des milliers de lignes. Ça ne constitue pas une infraction. Et ils étaient très, très clairs sur ce sujet. L'autre partie, donc savoir si oui ou non ces API étaient copyrightées ou pas, le juge est revenu avec un jugement un petit peu plus nuancé, ou en tout cas pas vraiment nuancé, mais en tout cas très limité dans son application possible. Il a dit, dans ce cas précis dont on parle, cette API n'était même pas copyrightable. Donc, même si le jury avait dit, bon, bah, si c'est copyrightable, on est du côté de Oracle et il faudrait que Google verse des dommages et intérêts, ça n'aurait pas été appliqué puisque, selon le juge, dans ce cas précis, l'API n'est pas copyrightable. Donc, vraiment, c'est une victoire totale de Google et Android est hors de danger avec, en tout cas, vis-à-vis de ce procès. L'autre chose qui est importante à préciser sur ce procès spécifiquement et cette histoire d'API copyrightable, c'était une décision qui était très attendue parce que la question de la copyrightabilité ou non des API, encore une fois, les API, c'est les fonctions qui vous permettent d'accéder à un programme ou non, de sortir des informations, d'entrer et de sortir des informations d'un programme. Cette question de copyrightabilité était très importante puisque ça aurait pu avoir des conséquences sur le reste de l'industrie. Et là, le juge a été extrêmement précis et extrêmement prudent même en cadrant sa décision de manière telle qu'elle ne peut s'appliquer qu'à ce cas précis. Donc il laisse les portes ouvertes et les possibilités ouvertes pour d'autres procès qui pourraient avoir lieu pour d'autres cas. Donc bon, victoire claire de Google. Je pense que les choses sont... on doit respirer un petit peu du côté c'est Mountain View, Google, c'est ça ? Donc bon, je ne sais pas s'il y a énormément de choses à dire et à commenter sur le sujet, si vous avez des commentaires.
Ils vont, sauf s'ils arrivent à s'entendre sur un cross-licensing, ils vont continuer la bataille, parce qu'aux États-Unis, une fois que tu as le premier jugement, tu peux aller en appel, tu peux aller, c'est pas fini quoi. Et
c'est très bon signe pour Google, mais oui, Oracle va certainement faire appel, oui.
Ah oui, c'est clairement un très bon signe pour Android parce que c'est un énorme problème, mais c'est pas fini quoi.
D'accord. Moi, je pourrais pas vraiment m'exprimer sur le sujet, mais j'ai quand même quelque chose à dire. Moi, ce qui m'a
ça ne m'étonne pas de toi, Jérôme.
Ah bah oui, ça c'est moi.
Vas-y, mon Jérôme.
Professeur Roland a toujours quelque chose à dire. Non, ce qui m'a le plus stupéfié quand j'ai entendu ces histoires, c'est finalement avec la vitesse à laquelle les technologies évoluent, la justice américaine, puisque là c'est la justice américaine, il va falloir qu'elle s'adapte parce que là on les voyait faire revenir des vieux ingénieurs qui avaient travaillé sur les premiers trucs, etc. Donc, ça doit devenir de plus en plus difficile pour la justice de suivre le combat des brevets dans ces technologies-là. Ouais.
Mais c'est toujours un petit peu le cas dans la technologie, disons que, dans la technologie ou sur tous les domaines. Il peut y avoir, par exemple, en médecine, des cas spécifiques ou dans... Les juges ne peuvent pas tout savoir sur tout, donc il faut toujours avoir des experts qui viennent expliquer pour qu'on puisse faire un jugement. Moi, ça m'inquiète un petit peu moins, mais bon, je comprends ce que tu veux dire. Dernière chose à propos de Google, justement, puisqu'on en parle, c'est un petit bonus. Il y a la liste des noms de domaines de premier niveau qui ont été achetés par Google, qui a été révélée. Et il y en a certains qui sont un petit peu surprenants. Vous savez, ces noms de domaines premier niveau, ce sont des noms de domaines en point quelque chose. Bon, aujourd'hui, on a .doc, .com, .fr, etc. Et l'ICANN, qui est l'organisme qui s'occupe de gérer ces noms de domaines, a ouvert il y a peu de temps pour des cas spécifiques, et les cas spécifiques, c'est généralement des sociétés qui ont beaucoup d'argent ou qui peuvent faire valoir une trademark, donc la possibilité d'acheter ces noms de domaine top niveau, comme par exemple .com ou .fr, mais avec leur propre nom. Et évidemment, Google a acheté .google, pas très surprenant. Ils ont acheté aussi .docs. Pour Google Docs, c'est pas surprenant non plus. Ils ont acheté .youtube. Mais un des noms de domaine qui nous a bien fait rigoler, c'était le nom .lol. le nom de domaine .lol appartient désormais à Google. On se demande bien ce qu'ils vont pouvoir en faire. Là où c'est marrant, c'est qu'ils doivent ensuite le gérer, ce nom de domaine, parce qu'ils ont le .lol, mais si par exemple Jérôme veut acheter jeromekainborg.lol, il faut que Google gère la chose. Je sais pas si c'est possible, je sais pas s'ils vont l'ouvrir, ou bon, je sais pas comment ça va se passer, je sais pas s'il y a des obligations d'ouverture de ces noms de domaine, mais si on peut tous aller acheter notre .lol, ça risque d'être marrant quand même.
Bon. Okay. Ça, ouais, ça va pas simplifier les choses, hein.
Oui, c'est sûr.
Non, c'est clair que ça va foutre la merde, et ça veut, enfin, je sais pas exactement comment va se gérer la multiplication des de la gestion des parce que tout ça, chaque entité, chaque domaine name est géré par par une entité, et donc ça veut dire que Google va devenir un domain name registrar pour .lol, .doc, machin, enfin ça va être un merdier sans nom, quoi. Ouais. Mais ça, c'est le problème de l'ICANN, qui fait un peu tout et n'importe quoi avec le DNS, et où ça va devenir super compliqué d'enregistrer ne serait-ce que tes marques, étant donné l'explosion du nombre de top-level domain names, quoi.
C'est sûr, ouais, que ouais. Oui, ça ouais, commence déjà à devenir un peu inquiétant, oui.
Déjà, l'arrivée des accents, j'étais vraiment contre, et je trouve aussi que les suffixes, qu'on puisse en faire un peu ce qu'on veut, ça va, enfin, il y avait quand même un certain ordre des choses qui permettait à une marque d'ailleurs de se couvrir un petit peu, parce qu'il suffisait qu'elle achète un certain nombre. Là, ça multiplie les possibilités, et ça rend le truc infernal, quoi.
Bah, il y a quand même une petite protection pour cette histoire de top level domain name. Il faut avoir la trademark pour enregistrer un point quelque chose. Donc, point Google, il faut avoir le trademark Google pour l'enregistrer. Donc,
On va acheter le point NoWatch, hein.
Oui, et ben écoute, ça coûte $185,000.
Et ben on va pas l'acheter, ou alors il faut faire un passage par la boutique.
Et bien justement, comment aider NoWatch à acheter point NoWatch, Jérôme?
Alors attendez, je prends ma calculette. Il faut que vous achetiez en stickers très exactement 3,33 tonnes de stickers.
Non. Bon, on vous parle donc de nos sponsors qui nous aident à faire nos émissions. On commence par la boutique NoWatch, en tout cas le fan shop NoWatch, et on va enchaîner avec Comic Con Paris.
Oui, et j'ai une nouvelle pour le fanshop, j'ai une nouvelle parce que c'est bientôt la fête des pères, et si vous avez un père qui est geek, ou si vous-même vous êtes un père geek, bah, y a quelque chose à faire une petite inception sur vos enfants, en leur montrant les photos du fanshop, en disant, oh là là, qu'est-ce qu'il est triste mon smartphone, qu'est-ce qu'elle est triste ma tablette.
C'est quand la fête des pères, tu peux me le rappeler?
C'est le 17.
D'accord, le 17 juin. Okay.
Donc, jusqu'au 17, qu'est-ce qui se passe sur le fan shop? Eh ben, les livraisons vous sont offertes à partir de 20€ d'achat. Donc, c'est le moment ou jamais de faire plaisir à votre papa geek ou de vous faire plaisir. Vous n'avez pas besoin d'avoir un papa, d'ailleurs.
Oui, c'est ça. On ne demande pas, en fait, l'extrait de naissance.
Non, on
ne
va pas
vous
demander le nom de votre père. Vous faites ce que vous voulez. En tout cas, ça dure jusqu'à la fête des pères. Donc, les frais de port offerts à partir de 20€ d'achat. Je vous rappelle que le fan shop.
Au lieu de 50, c'est ça?
C'était 50 la limite. Je vous rappelle que le fan shop, ce que ça a bien, c'est que c'est une boutique qui est à 100% gérée par NoWatch. C'est-à-dire que le vendredi, Christophe, moi, Will et ceux qui sont de passage, on colle les petites enveloppes. Alors non, on ne met pas notre salive, ne faites pas des prélèvements d'ADN, c'est pas la peine. Maintenant, les enveloppes autocollantes, ça existe. Mais on colle les petites enveloppes amoureusement et on part avec notre petite bannette à la poste. Vous postez ça tel des Pères Noël. Voilà, c'est de l'argent qui nous revient directement. Ça nous aide vraiment beaucoup. Là, je prends 2 minutes de sérieux. Franchement, on voudrait remercier d'abord tous ceux qui nous ont aidés en allant à la boutique. On va essayer de mettre souvent des nouveaux produits pour que vous reveniez, que vous ayez envie de revenir. Et ça nous aide vraiment à continuer ce qu'on fait, à vous offrir des émissions, à en construire de nouvelles, à être à la Comic-Con, etc. Donc encore un grand merci à tous ceux qui ont participé ou qui vont participer pour cette fête des pères à ce fan shop. Et vous le trouverez en cliquant sur les boutiques sur le site nowatch.net.
Et le deuxième remerciement qu'on veut faire, c'est Comic-Con, il faut pas mettre l'article, c'est Comic-Con Paris 2012. Tu le fais ou je le fais, je sais plus, Jérôme, ce qu'on a décidé.
Oh, vas-y, enfin, c'est comme tu veux. D'accord. Vas-y, puis je te corrigerai.
D'accord, oui, exactement. Donc, Comic-Con Paris, vous le savez, c'est le festival des cultures geeks. Ils en sont à leur, 4e, 5e édition. On y était l'année. quatrième. On y était l'année dernière, on a eu le plaisir et le bonheur de vous retrouver sur notre petit stand No Watch qui était bien sympathique. Eh bien cette année, on y sera encore avec un stand encore plus grand, encore plus beau. Et c'est en partie grâce à Comic-Con Paris qu'on remercie chaleureusement. C'est du 5 au 8 juillet au parc des expositions Paris-Nord-Villepinte. Et il faut savoir que l'entrée pour Comic-Con est valable aussi pour Japan Expo et vice-versa. Donc, si vous achetez un billet, vous avez droit aux deux expos qui sont en fait des expos collées, elles sont attenantes. C'est un petit peu la même organisation. Et cette année, l'un des invités, c'est Tony S. Daniel, qui est le dessinateur de Batman de Detective Comics. Alors, pour ceux qui connaissent pas Detective Comics, ça n'est pas forcément surprenant, mais c'est le comics, en fait, où est apparu Batman pour la première fois. Je crois que Superman, c'était Action Comics, si je ne m'abuse. Mais donc, c'est vraiment l'origine de Batman. Et Tony S. Daniel est l'un des invités d'honneur de Comic-Con Paris. Donc, si vous voulez voir, si vous êtes un petit peu fan de comics, c'est un invité à ne pas rater. Et donc, comme je vous le disais, nous, on y sera aussi. Donc, moi, j'y serai, si je ne m'abuse, le vendredi et ou le samedi. Le samedi, c'est sûr, j'essaierai d'y être aussi le vendredi. On fera peut-être un applaudant live, tout ça, donc ça va être sympathique, comme l'année dernière. Et si vous voulez, si tout ça vous a mis l'eau à la bouche, et que vous voulez prendre vos billets pour Comic-Con Paris, si ce n'est pas déjà fait, eh ben pensez là encore à passer par le site No Watch. Il y a une petite bannière Comic-Con Paris sur le site nowatch.net, et si vous passez par là, eh ben évidemment, ça dit à Comic-Con Paris que vous êtes venu de notre part, et là encore, ça nous file un petit coup de main, ça nous aide à gagner en crédibilité auprès d'autres personnes. Donc, c'est un moyen que vous pouvez utiliser pour nous soutenir là aussi.
Et un tout petit tease, suivez bien les émissions No Watch dans les jours à venir, parce que demain, nous allons à la conférence de presse de Comic-Con, et il y aura probablement d'autres bonnes nouvelles à annoncer sur les invités de Comic-Con.
Ah, mais moi, je ne suis pas au courant, là. C'est un teaser même
si sur... Si tu savais, Patrick, mais je ne dirais rien.
T'es sûr? Même si je te menace de parler encore de raton laveur?
Alors écoute, si t'as 10 euros en ce moment, je suis facilement corruptible.
Bon, ok, donc même pas les ratons laveurs. Eh bien, on referme donc cette page sponsor et on s'engouffre dans les news et rumeurs avec une bonne nouvelle. Les news et rumeurs, c'est la partie où on passe très rapidement sur les news qui ne valent pas forcément une discussion longue et animée. Et là, je pense qu'il n'y aura pas vraiment de discussion, puisque ACTA, la recommandation sur ACTA a été négative pour 3 des comités de l'Union européenne qui doivent donner leur avis. Il y en a un dernier qui doit donner aussi son avis, c'est le comité du trade, de l'industrie, qui ne l'a pas encore fait, si je ne m'abuse, mais pardon, c'est pas l'industrie, le trade. Bref, le comité de l'industrie, des libertés civiles et des affaires légales ont tous les trois donné un avis négatif sur l'ACTA, et donc à peu près toutes les instances compétentes dans le domaine ont déclaré que l'ACTA était très certainement morte avant d'avoir été votée au Parlement européen. C'est un vote qui aura lieu cet été. Donc toutes les actions et les informations que nous avons tous fait ensemble ont été efficaces. Bon, je veux pas non plus trop nous jeter de fleurs, c'est sans doute des personnes un petit peu plus importantes que nous qui ont joué sur cette décision, ou ce qui semble qui va devenir la décision. Mais si, comme moi, vous avez contacté votre député, j'espère que ça aura été un petit facteur en plus. Et donc la chose n'est pas encore totalement décidée, ça prend la bonne voie, mais si vous voulez encore plus influencer la chose, je crois qu'il y a des manifestations prévues ce samedi, donc on enregistre le lundi 4, et il y a des manifestations prévues le samedi 9. Il y a un long article de Corben sur le sujet, donc si vous voulez en savoir plus, allez voir corben.info, vous aurez toutes les informations là-dessus. C'est bien, hein, ACTA, on peut
pour lui dire presque au revoir. Oui, ça serait bien que complètement au revoir, que ça soit le dernier ACTA.
Oui, à mon avis, ils vont revenir de toute façon. Hein. Peut-être pas sur
cette ils auront un autre nom.
Oui. À propos des institutions européennes, un petit truc un peu lol, un peu marrant. Il y a une loi qui a été votée il y a quelque temps sur les cookies pas les biscuits, hein, mais les outils que les navigateurs utilisent pour retenir vos préférences sur différents sites. L'Union européenne a voté le fait que tous les sites qui utilisent des cookies doivent vous en informer et obtenir votre consentement. Alors, c'est quand on sait la quantité de lieux et d'endroits et de cas où sont utilisés les cookies, on comprend vite que c'est quelque chose de totalement, on va pas dire inapplicable, mais vraiment difficilement applicable, parce que ne serait-ce que pour savoir quelles sont vos préférences sur un site, tous les sites utilisent des cookies dans tous les sens, mais bon, l'Union européenne a voté la chose, donc il faut l'appliquer. Et la loi est entrée en vigueur en Angleterre il y a quelques jours, et déjà, il y a des milliers et des milliers de sites qui ne la respectent pas, parce que forcément, imaginez si à chaque fois que vous allez sur un site, vous devez cliquer « OK, accepter les cookies sur ce site », ça va devenir infernal. Mais le plus drôle dans l'affaire, c'est que les sites de l'Union européenne elle-même ne respectent pas cette loi, et que en fait, ils ont argué du fait que la loi ne s'applique qu'aux États membres, mais pas à l'Union elle-même, à l'organisation et aux institutions de l'Union elle-même. Donc, voilà.
Même moi, j'aurais pas osé.
La petite
ça, c'est trop fort.
C'est quand même fort, hein.
Ah, mais ça, c'est l'Europe, hein.
Oui, oui. Mais le
pire, il y a quand même un truc drôle,
hein,
auquel je pense, parce qu'à la limite, si la première fois que t'allais sur un site, ils te demandaient l'autorisation et après ils t'emmerdent plus. Mais le problème, pour qu'ils se souviennent de plus t'emmerder, il faut des cookies. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi.
En plus. Et puis, en plus, il y a des parties du site qui ne vont pas faire partie de ce site-là. Donc, si c'est une pub, est-ce que c'est un autre site? Et est-ce que là, si tu, enfin, bref, c'est un merdier pas possible, quoi. Mmh. C'est inapplicable.
Moi, je pense qu'il faut arrêter Internet en Europe et relancer le Minitel.
C'est une bonne idée. Je pense qu'on va proposer ça. Appelez vos députés. Je dis toujours qu'il faut être actif politiquement. Appelez vos députés pour demander le retour du Minitel.
En tout cas, il y avait des vrais business models sur le Minitel.
Ah ben voilà, exactement. 3615 NoWatch.
C'est facile, quoi. Voilà.
Windows 8 Release Candidate est désormais disponible et il a été accueilli. Alors, la Release Candidate, c'est la version qui devrait normalement être très très proche de la version qui sortira effectivement, puisque c'est la version qu'il propose pour la version finale. Il y a beaucoup de gens qui sont pleins de la disparition du menu démarrer. Et visiblement, Microsoft veut totalement faire disparaître le menu démarrer, a même enlevé des morceaux de code de l'intérieur de Windows 8 pour qu'on ne puisse pas le réimplémenter. Il y aura toujours des petits malins pour le reconstruire d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, Corben a mis un article, a mis un article en ligne sur un logiciel qui vous permet de recréer ce menu démarrer. Mais dans la version normale de Windows 8, le menu démarrer, en fait, c'est le menu métro. Et il y a beaucoup de gens qui, à l'époque, je suis sûr, où Windows 95 était sorti, se moquaient du menu démarrer et qui aujourd'hui ne peuvent plus s'en passer. Moi, ce que je dis, c'est attendons, essayons au moins pendant quelques semaines, voire quelques mois, voyons ce que ça donne. Si vraiment vous êtes parti sur une utilisation hyper professionnelle avec des utilisations spécifiques de votre Windows, il faut rester sur Windows 7. Moi, c'est ce que je vais faire, hein, a priori. Windows 8, ça sera pas pour moi, ou en tout cas pas pour tout de suite, et pas sur mon ordinateur personnel parce que j'utilise trop de choses. J'ai trop d'utilisations spécifiques, mais attendons. De voir si on s'y habitue avant de jeter le bébé, quoi. Ça pourrait être intéressant. Essayons au moins, non?
Moi, je donne juste mon petit avis là-dessus. On reprochait beaucoup, et moi le premier, que Microsoft ne savait pas se débarrasser de ses vieux fantômes, et quand on voit Word, ils essayent d'appliquer des nouvelles interfaces et des nouveaux usages, tout en gardant les anciens pour ménager ceux qui ont appris Word dans les années 80. Moi, je suis plutôt content. Le produit Windows 8, c'est un pari ambitieux, il est couillu, et j'aime plutôt qu'on aille jusqu'au bout des idées. Oui. Quitte à pas forcément suivre les consumer panels à 100%. Non, moi je suis plutôt content que justement Windows persévère dans son idée que ils ont un bon OS. Après, ils vont, si le plantage va être magistral, mais ouais. Au moins ils ont essayé quelque chose de nouveau et de remettre les choses à plat sans se trimballer avec toutes les vieilles interfaces couche par couche les années d'usage, quoi.
On est d'accord. Et puis Windows 8, c'est un truc vraiment consumer, effectivement, c'est pas fait pour tout le monde à mon avis, mais bon. Jeff, toi, t'es toujours aussi réticent sur Windows 8. Je sais que t'aimes pas tellement Windows 7, Windows Phone 7, pardon. Comme c'est un petit peu la même crèmerie.
C'est quoi Windows? Bah non, Jérôme a raison. Je pense que c'est intéressant qu'il remette en question ces espèces de bouts de UI qui datent de Windows 95, le menu démarrer. Donc on verra un peu ce que ça donne. Pour être très très honnête, ma machine Windows 7, je l'utilise en tant que backup. Je passerai à Windows 8 pour voir ce que c'est, mais bon, tant qu'il n'y a pas de pomme, hein, pour moi.
Ouais, toujours complètement accro. T'as vu le accro, la pomme.
Accro, la pomme. Joli, Patrick.
Merci, merci.
Sans pépins.
On est accro au raton laveur. Non, c'est juste une question de flexibilité d'utilisation. Et c'est vrai que bah, entre mon MacBook Pro et mon MacBook Air, et puis de temps en temps mon iPad, je sens pas le besoin d'utiliser ma Beacon Windows. Mais enfin, je me force à l'utiliser quand même. Hein. Je suis sur les deux. Et ce sera intéressant de voir comment ils évoluent.
Effectivement. Je pense que si c'était pour refaire Windows 7, c'était pas la peine. Quoi. Donc,
Tout à fait. Et je pense que l'interface Windows sur le téléphone, à l'avant... Enfin, au moins, c'est différent. Ils ont essayé de faire quelque chose d'assez innovant. Bon, j'aime pas personnellement, mais au minimum, ils ont essayé de se démarquer plutôt que de refaire quelque chose que, bah, en gros, tu regardes Android, c'est un peu la même chose, quoi. Donc, on verra s'ils arrivent à avoir une pénétration suffisante sur le monde du téléphone, qu'ils arrivent, en fait, à rendre leur interface desktop plus
attrayante.
Plus homogène, plus en fait, et plus attrayante avec la partie téléphone.
Moi, je viens de regarder le live de la conf Microsoft, et je peux vous dire, et d'ailleurs, le live est disponible déjà sur nowatch.net à cette heure-ci, je peux vous dire que l'intégration avec les phones et les tablettes Windows 8 et tout ça, et avec le Xbox Live, il y a des trucs vraiment pas mal qui ont l'air bien. Non, enfin, des trucs vraiment pas mal qui ont l'air pas mal.
Oui, il y a effectivement toute cette semaine une série de lives dont on va vous reparler à la fin de l'émission, menée d'une main de maître par Cédric Bonnet pour l'E3, l'Electronic Entertainment Expo. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans cette émission, d'une part parce qu'il n'y a pas d'annonce tech vraiment fracassante, et d'autre part parce que Cédric a fait donc un suivi en live de toutes ces conférences que vous pouvez retrouver en replay sur nowatch.net et qu'on vous encourage donc à aller regarder si ce sujet vous intéresse.
Et ceux qui sont dans la chatroom, ça va durer jusqu'à 5h du matin. Là, on est parti pour une nuit de live.
Exactement. Si vous êtes là en direct, préparez-vous à passer une nuit en compagnie de Nowatch. On continue rapidement sur les sujets suivants. TF1 qui perd son procès contre YouTube. Bon, on avait déjà vu ce type de procès perdu dans d'autres pays. TF1 voulait que YouTube n'ait pas le droit de mettre les programmes pour lesquels TF1 avait les droits en ligne, donc des petits extraits de séries pour lesquelles ils avaient racheté les droits, par exemple. Le tribunal a estimé, avec à mon avis raison, que d'une part les extraits étaient souvent trop courts puisqu'il y avait des limites de temps, et que d'autre part, de toute façon, TF1 n'avait pas les droits sur ces séries pour le monde entier, et que donc leur demande de faire retirer ces extraits n'était pas valide. Une nouvelle plutôt intéressante pour les fans de l'espace, le SpaceX.
Juste 30 secondes. Je sais pas si t'as vu passer cette news à propos du coût potentiel de vérifier chacun des segments uploadés par YouTube. En gros, c'est 4 milliards de dollars par an. Si jamais tu voulais avoir quelqu'un qui regarde chacune des vidéos, avec une compréhension des problèmes de temps, de fair use, de propriété intellectuelle. Donc c'est pas n'importe qui, ça peut pas être du Mechanical Turk, c'est forcément quelqu'un qui s'y connaît, et donc ce serait absolument prohibitif.
Évidemment, on l'a compris, une demande un petit peu ridicule, quoi. Pour ceux qui aiment l'espace et l'exploration spatiale, je sais que vous êtes nombreux, SpaceX, qui est un projet privé, a réussi à envoyer une capsule qui a été récupérée avec succès par l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Et c'est la première fois, évidemment, qu'une telle chose se produit. C'est une expédition spatiale privée qui a, alors je répète, hein, une navette privée qui a été envoyée dans l'espace pour envoyer une capsule à la Station Spatiale Internationale, qu'il a arrimée avec son petit bras. Elle a sorti son bras, elle a fait comme ça, et elle a réussi.
Ah, enfin,
ils mettent
de l'huile, hein, tu sais quand même, Patrick.
Oui,
hein.
Mais bon, je schématise, tu vois, je fais vivre le spectacle à l'audience, à l'auditeur.
J'ai pas entendu ce bruit-là, mais bon.
Non, mais
à
c'est
mon
pas,
avis,
on
si
l'entendait
ils avaient
pas.
Entendu ce bruit-là, ils auraient fait oups.
On l'entendait pas parce que c'était à cause de l'espace. Vous savez, il y a pas d'air, donc le bruit, le son ne se transmet pas. C'est juste pour ça. Hein. Si on avait eu, ça aurait fait ce bruit-là. Bref, donc c'est très enthousiasmant parce que ça veut dire que l'exploration spatiale privée est en bonne voie. Évidemment, on n'y est pas encore, mais c'est en bonne voie. Et c'était le deuxième vol de SpaceX dans l'espace. Et ils ont déjà réussi du premier coup à faire ce qu'ils voulaient avec la station spatiale internationale. C'est très enthousiasmant.
Et donc, c'est eux qui ont le contrat maintenant d'approvisionnement de la station spatiale pour 1,2 milliard, je crois, avec NASA. Et ils ont maintenant des contrats qui leur permettront de monter des satellites en orbite géostationnaire, etc. Et le truc pour moi, c'est que quand on regarde Elon Musk, donc qui est le fondateur de SolarCity, de SpaceX et de Tesla, c'est quand même un mec exceptionnel parce qu'il a choisi des sujets qui sont hyper compliqués. Je veux dire, l'exploration spatiale, on peut difficilement penser à quelque chose de plus agressif et de plus risqué, mais on le voit réussir. Ça a mis 10 ans, puisqu'il a lancé la boîte en 2002, mais le mec, il a réussi, donc c'est assez incroyable.
Et puis 10 ans, c'est rien. T'imagines, enfin, on imagine bien que si on vient nous voir chez No Watch demain et qu'on nous dit « Ok, vous devez envoyer une machine dans l'espace », il nous faudra un petit peu plus de 10 ans. Enfin, non,
ouais,
non,
enfin, ça dépend. Le MacBook de John Plisken, à mon avis, il vole bien. Hein.
Bon, non, effectivement, c'est. Et puis, comme tu dis, je connais pas SolarCity, mais Tesla, c'est aussi quelque chose de très ambitieux et qui est en train de fonctionner. C'est des trucs très enthousiasmants et ça montre, sans faire de politique, que la puissance, là encore, de l'entrepreneuriat et du secteur privé n'est pas forcément à négliger, même dans ces domaines-là, qui étaient dans l'esprit de beaucoup, y compris du mien, réservés à au gouvernement. On se disait l'exploration spatiale, c'est les gouvernements qui font ça. Eh ben peut-être pas. Peut-être qu'il y a des solutions effectivement à fournir par la sphère privée. Et que du coup, le gouvernement peut se consacrer à d'autres choses, peut-être plus ambitieuses dans ces domaines-là.
Peut-être. On n'est pas encore, ils n'ont pas encore envoyé des GUS en orbite, hein, parce que c'est la phase d'après. C'est clairement là où Virgin Galactic va aussi pointer le bout de son nez à un moment ou à un autre. Mmh. Et j'ai rencontré leur CEO, George Whiteside, qui est, tu vois donc sa carte, CEO de Virgin Galactic. Ok, je parle un peu avec le mec. Et le Gus t'explique en gros où il en est dans son projet et qu'effectivement il fera partie du dernier test flight. Donc avant qu'il passe commercial, il montera dedans quoi. Et ben oui.
Il a
des couilles hein, parce que oui. Moi je sais pas si j'irai.
Moi je vais attendre un petit peu quand même vols et surtout que le prix baisse quand même parce
aussi,
que c'est un peu cher.
Bon en même temps si c'est le président de la boîte, il peut bien dire vous me faites une place là entre les sacs à dos et la bouffe et bon, je prends pas beaucoup de place, il peut.
Ouais, enfin si on lance la fusée No Watch, je monte pas dans la première. Hein. Vu les tocards qu'on a. Hein.
WebOS meurt encore une fois en fait. Google a entre guillemets racheté l'équipe de développement, je sais plus comment il s'appelle, Enzo, l'équipe de développement qui est au sein de HP. HP a répondu que l'équipe était toujours active et qu'ils engageaient d'autres personnes et que maintenant WebOS était open source donc ils avaient pas besoin d'une équipe aussi importante. Bon, ça sent quand même un peu mauvais pour WebOS parce que je vois pas la communauté du libre s'engouffrer dans la brèche. Mais bon, d'un autre côté, c'est plutôt enthousiasmant pour Google et Android puisque cette équipe de développement était très douée et avait sorti un OS qui, à l'époque, était innovant et intéressant. Donc peut-être que Android en bénéficiera et bénéficiera de leur savoir-faire. Yahoo lance un navigateur ou enfin une extension pour le navigateur et un navigateur dans pour les systèmes mobiles. Ça s'appelle Axis et c'est un truc qui est intéressant pour la recherche, c'est-à-dire que c'est un outil qui vous permet quand vous faites une recherche de naviguer de manière intéressante entre les différents résultats. Je vais pas passer plus de temps que ça pour le décrire parce que c'est vraiment compliqué à décrire, mais si vous recherchez souvent sur Internet et que vous voulez une manière plus intéressante de faire vos recherches et de trier les résultats de vos recherches, essayez Axis de Yahoo, c'est une approche intéressante. Je termine avec les deux dernières news. RIM est en train de lancer une restructuration qui est peut-être bienvenue et ils auraient peut-être dû y penser avant. En tout cas, ils vont avoir 2000 personnes en moins, donc ils vont renvoyer 2000 personnes, hein, un plan social de 2000 personnes. Évidemment, c'est pas enthousiasmant pour eux, mais en l'occurrence, je pense que on sera tous d'accord pour dire que RIM est dans une mauvaise passe et qu'il faut qu'ils fassent quelque chose. Et vu leur diminution de part de marché, ils pouvaient pas continuer comme si de rien n'était. Donc peut-être qu'enfin les choses bougent chez RIM. Et dernière chose, il semblerait que les personnes de plus de 55 ans choisissent des mots de passe plus sûrs que les personnes plus jeunes, les personnes de 18-25 ans. Donc, je vous voyais...
Par contre, elle les oublie, quoi.
En plus de 55 ans, ça va quand même. Mais je vous voyais, je vous entendais, hein, vous, dans votre métro ou dans votre voiture, rigoler quand on vous disait « Ah, le type qui a, qui a mis Stuxnet sur les centrales nucléaires iraniennes, il l'a fait avec sa petite clé USB parce qu'il était trop débile pour comprendre qu'il fallait faire attention avec des clés USB. » Et ben vous-même qui étiez en train de rigoler, je suis sûr que vous avez des mots de passe que certains d'entre vous en tout cas ont des mots de passe complètement pourris, genre le nom de mon chien, la date d'anniversaire de ma copine ou de mon fils. Et ben voilà, maintenant vous rigolez moins parce que votre papy il a des mots de passe plus sûrs. Il semblerait qu'effectivement une étude, bon je sais pas quelle est la validité de cette étude, mais en tout cas les personnes un petit peu plus âgées soient plus prudentes. Donc c'est une bonne leçon pour vous et changez votre mot de passe. On arrive à la fin de
donc ça paraît, c'est une bonne façon de voler le passeport de quelqu'un et dire ah bah tu me donnes ton mot de passe pour que je vois s'il est suffisamment difficile à deviner. Hein?
C'est une bonne technique de social engineering, effectivement, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui se sont fait avoir. Il y avait un truc assez intéressant, je crois que c'était dans oui, c'était le podcast Remix Jobs sur les pentesters. Pentesters, c'est les testeurs de pénétration de réseau qui expliquaient comment ils peuvent faire du social engineering, donc de l'obtention d'informations sociales, c'est-à-dire en appelant des gens simplement et en leur disant ils appellent de l'extérieur de la boîte et ils appellent donc un responsable marketing ou Dieu sait quoi, il lui dit oui bonjour c'est Jean-Jacques de l'équipe IT, j'ai besoin de votre mot de passe là parce que je suis en train de faire une vérification machin, et une fois sur deux les gens leur donnent leur mot de passe, quoi. C'est terrifiant la confiance que font les gens quand on leur dit simplement oui. Oui, on les embrouille un petit peu. C'est incroyable. Enfin bon, à suivre dans Remix Jobs sur les pentesters si vous voulez en savoir plus. Dernière chose dont je voulais parler. Et là, c'est un petit coup de promo d'un pote et en même temps un gros coup de nostalgie. C'est le livre Le Puits des Mémoires sur lequel j'ai écrit un petit article sur mon blog, sur patrickbeja.com. Je l'ai fait suivre aussi sur nowatch.net. Le Puits des Mémoires, en fait, c'est un livre qu'a écrit un ami à moi, un très bon ami, un ami d'enfance en fait, qui s'appelle Gabriel Katz et avec qui je fais des jeux de rôle depuis des années et des années. Ça m'a fait retomber dans les débuts de mes aventures jeux de relais. Si vous voulez lire mon petit article, c'est sur, donc, comme je le disais, patrickbeja.com où je parle de mes souvenirs de rôliste. Et en l'occurrence, ce livre, Le Puits des Mémoires, qui est le premier tome d'une trilogie, est basé sur une aventure de jeu de rôle qu'on a fait ensemble pendant des mois et des mois. Et qu'il a transcrit en roman. Et bon, quand il m'a dit que ça allait être édité, j'étais un petit peu angoissé, je vous avoue, parce que s'il avait été mauvais, j'aurais été très emmerdé. Et bon, j'en aurais quand même parlé. Mais en l'occurrence, il est très très bon. Je l'ai lu, enfin, je l'ai dévoré en une semaine. Et il est vraiment vraiment très bon. Donc je vous le recommande. Et c'est d'autant plus possible de vous en parler dans le rendez-vous tech. Et je vous en reparlerai dans d'autres émissions aussi, parce que c'est un truc qui me plaît. Donc il est d'autant plus possible de vous en parler qu'il est disponible sur iBook et sur Kindle à 12€ au lieu de 16€ en boutique et en version papier. Et comme vous le savez, sur iBook, il y a une version, un extrait gratuit qui est disponible et qui là, en l'occurrence, fait presque 3 chapitres. Donc, je vous encourage vraiment à aller le lire. D'une part, parce qu'il y a un petit morceau de moi dans ce livre, mais vraiment, je suis j'ai joué en jeu de rôle l'un des héros de ce bouquin. Et d'autre part, parce que c'est vraiment un bon livre, même pour ceux qui sont pas super fans fan d'Heroic Fantasy. C'est un livre, enfin, Gabriel, le type qui l'a écrit, c'est un littéraire, quoi. C'est un auteur. Il est nègre dans le domaine de l'édition parisien depuis très longtemps. Nègre, c'est pas raciste, hein, c'est juste les gens qui écrivent sans donner leur nom sur qui écrit des livres pour d'autres personnes, mais il écrit vraiment, c'est un littéraire, et c'est super bien écrit, c'est beau, c'est une langue vraiment châtiée, et en plus, c'est un livre qui est inattendu. Je me suis rendu compte en le lisant qu'on ne sait jamais ce qui va se passer plus tard. Il y a un petit artifice d'écriture, perte de mémoire, d'amnésie au début. Et après ça, je vous mets au défi de savoir ce qui va se passer dans les chapitres suivants. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant.
J'ai une question, je pense que tous tes fans, cette question qui leur brûle les lèvres.
Oui.
Quand tu as joué ce scénario, tu jouais quel personnage? Quel était ton personnage?
Alors justement, je vais pas en parler tout de suite parce que je me disais, je vais peut-être organiser un truc, genre, je sais pas, un concours, un truc comme ça, et ça pourrait être l'une des questions. Donc,
devinez ton personnage.
Ouais, un truc du genre.
Moi, je sais déjà si qu'il avait un fouet, ça, je sais.
Bon, on verra. Enfin bref, je vous en reparlerai.
En tout cas, ton article est très chouette. Moi, il m'a ému et chez Novache, on aime bien ce qui émeut.
Oh my god,
je l'ai pas vu venir. Je l'ai pas vu venir, elle est bonne. Bref, j'aurai l'occasion de vous reparler du Puits des Mémoires, mais si vous êtes sur votre iPad ou votre Android, allez faire un petit tour du côté d'iBook ou de Kindle. Et comme je vous disais, iBook est un extrait gratuit, donc vous cliquez et vous le téléchargez. Si vous l'aimez, vous continuez, vous pouvez payer les 12 brousoufs. Sinon, c'est pas la peine et vous aurez quand même lu un ou deux chapitres gratuitement. Bon, on enchaîne avec
un petit point. Dans le carnet rose qui est pas encore rose, nos amis Véronica Belmont et Ryan Block se sont fiancés le week-end dernier.
Ouais, j'ai vu la photo sur Instagram.
Oui, oui, ils étaient à New York et effectivement, Ryan Block a demandé sa main à Véronica. C'était émouvant pour ceux qui les suivent et qui les connaissent.
La reine des geeks n'est plus à prendre.
Si Patrick est toujours disponible.
Je t'aurai, Jérôme, un jour. Pour ceux qui ne savent pas qui sont Véronica et Ryan, enfin en particulier Véronica, si vous me suivez un petit peu dans mes podcasts anglophones depuis quelques temps, depuis les débuts de 2006, je participais à une émission qui s'appelle The Instance, qui est sur World of Warcraft, et Véronica était l'une des personnes que j'ai rencontrées par ce biais parce qu'elle participait, enfin, elle était très fan de The Instance et elle parlait avec Scott Johnson et elle participait aussi à Buzz Out Loud, elle était la productrice de Buzz Out Loud à l'époque. C'est par là que j'ai rencontré aussi Molly Wood et Tom Merritt, et accessoirement The Instance, c'est par là que j'ai rencontré Jeff, puisque Jeff était un auditeur de l'émission et ensuite un auditeur de Azeroth.fr, et il est venu me trouver dans une BlizzCon au milieu de la foule, et il m'a dit « Salut, je m'appelle Jeff et j'écoute tes émissions, je les aime bien, c'est sympa », et c'est de ce moment-là qu'on s'est lié d'amitié.
Donc, et c'est là que tout a commencé.
Donc c'était un souvenir marrant que ça a rappelé là encore, ces fiançailles de Véronica. Donc oui, effectivement, carnet rose.
Et dans tous les cas, ça nous fait très plaisir parce que ça fait quand même un bout de temps qu'ils étaient ensemble et on leur souhaite plein de bonheur.
Tout à fait. Bon, écoutez, fin de l'émission. On a des petits soucis avec le live qui, je crois que j'ai des problèmes de Wi-Fi. Donc,
j'espère que tu vas pas faire comme Willenko qui n'a pas enregistré
une émission ce soir. Non. Moi, normalement, j'enregistre. C'est bon. On arrive à la fin de l'émission et je vais lire très rapidement un commentaire sur iTunes où on vous encourage à nous laisser des notes. Un commentaire de Gugus9 qui nous dit je suis désolé, 5 étoiles, je sais pas pourquoi il est désolé, enfin plus ou moins, parce que dans son commentaire il nous dit: cela fait maintenant plus d'un an que j'écoute ce podcast mais je n'ai jamais pris le temps de noter, j'ai honte de moi, pourtant je suis super content que vous quand je vois un nouvel épisode de ce podcast. De plus, grâce à lui, j'ai découvert les nombreux autres podcasts de No Watch. Mes trajets de métro parisiens ne sont plus aussi épuisants grâce à toi et aux autres. Merci beaucoup. Et bien merci à toi, Gugus, de nous avoir laissé ce commentaire sympathique. Et on vous encourage, vous aussi, chers auditeurs, à faire de même, puisque iTunes reste le répertoire principal des podcasts et c'est comme ça que beaucoup de gens nous découvrent. S'ils y voient un chouette commentaire de votre part, peut-être qu'ils se diront: ah bah on va l'écouter ce podcast puisque les gens l'aiment bien. Donc merci à vous si vous nous laissez un commentaire là-bas. On arrive donc, comme je le disais, à la fin. Et la fin, c'est le moment où vous nous dites, vous, chers co-animateurs, où on peut vous retrouver sur Internet quand vous n'êtes pas sur le Rendez-vous Tech. Jeff, que fais-tu dans l'Internet du monde ?
En ce moment, je suis assez busy, mais autrement, je tweete sur @Jeff. Et puis, je passe aussi un peu de temps sur Google+, sur Jeff Clavier.
Merci Jeff. Jérôme, qu'est-ce que tu fais toi dans la vie en dehors du de podcast Le Rendez-vous Tech ?
Je porte No Watch sur mes épaules.
croules sous le poids de No Watch, en fait, c'est ça ?
Oui, non, c'est un poids léger vu l'expérience humaine qui est fantastique, No Watch. En tout cas, retrouvez-nous à la Comic-Con, où on a dit les dates avant. Sinon, moi, je tweete beaucoup moins en ce moment parce que j'ai vraiment pas de temps, mais ça va revenir.
Tu nous disais déjà ça sur Instagram et t'es jamais revenu. Hein.
Si, je suis revenu. Là, j'ai fait ce week-end, j'ai mis des photos de 2 heures de balade dans Montmartre que j'ai réussi à me faire. Donc, mais je balance tout d'un coup, moi. C'est 20 photos sur Instagram et puis pendant un mois, tu me vois plus.
D'accord, ok. Bon, écoutez, c'est donc la fin de cette émission. Si vous êtes, j'allais dire si vous êtes dans le live, mais le live a coupé parce que mon wifi fait des siennes. Donc, si vous êtes dans le live, vous ne pourrez pas m'entendre vous dire que vous pouvez suivre, Cédric, comme on le disait tout à l'heure, qui va faire les lives des conférences suivantes de l'E3. Mais par contre, si vous écoutez ce podcast, vous pouvez aller les retrouver, en tout cas retrouver le replay de ces conférences si vous voulez suivre tout ce qui s'est passé en détail et avec les commentaires de tous nos co-animateurs en direct. Jérôme, tu vas participer à l'une de ces conférences ou pas ?
Non. Moi, je fais juste le bouffon dans la chatroom jusqu'à 5h du matin.
D'accord. Ok. Bon, t'es quand même un petit peu présent. Donc, ça sera sur nowatch.net. Comme tout plein d'autres émissions fort sympathiques que vous pouvez aller écouter ou regarder aussi. Au hasard, l'émission NipTech qui se concentre sur l'innovation et les startups qui est sans doute l'émission avec le plus d'accent chantant de No Watch. Ils nous ont rejoints il y a quelques jours à peine. Ils sont dans The Lab c'est animé par des Suisses, des Canadiens, tout ça. Donc, c'est des accents magnifiques que vous pouvez retrouver. Au moment où on enregistre, ils sont pas encore arrivés sur le site, mais ça devrait plus trop tarder du tout. Donc, j'espère quand vous serez en train d'écouter cette émission, ils seront déjà disponibles. Et donc, on vous encourage à aller y jeter un coup d'œil si les startups, le monde des startups vous intéresse. Écoutez, c'est donc la fin de cette émission. On vous remercie tous de l'avoir écouté et on vous donne rendez-vous dans 2 semaines, peut-être pour un épisode spécial. Je suis pas encore sûr. Je pensais qu'il serait intéressant de faire un truc sur la propriété intellectuelle avec des artistes et peut-être des gens du monde de la politique en même temps. Donc on va voir ce qu'on va faire. Peut-être le prochain épisode ou peut-être un après. On vous tiendra au courant en tout cas pour cette actualité sur le site nowatch.net. Merci Jeff, merci Jérôme et à vous tous à dans 2 semaines. Ciao.
Et allons à moi.
Merci à tous. Ciao tout le monde.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com, Code Program.